Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreuses ce soir. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Daria Marx. Merci beaucoup, beaucoup d'être là ce soir. Vous intervenez, Daria, pour votre livre « 10 questions sur la grossophobie ». C'est paru aux éditions Libertalia. Vous aurez l'occasion de vous présenter, peut-être vous le ferez mieux que moi. Et la rencontre sera modérée ce soir par Koulma. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Vous êtes militante dans le collectif Gras Politique, vous aurez aussi l'occasion d'en parler. La rencontre est non seulement amplifiée, mais enregistrée. La rencontre passera à la radio sur Canal Sud dans quelques temps. Si vous ne voulez pas passer à la radio, on peut vous couper au montage et je ferai circuler le micro à l'issue de la rencontre. Merci beaucoup et bonne soirée.
Comme ça.
Eh bien, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci déjà d'être là. C'est chouette de vous voir. C'est chouette de découvrir Toulouse pour nous. Oui, on n'était jamais venus. Merci beaucoup de nous avoir invités. Est-ce que je te présente, peut-être?
Allez,
c'est toujours gênant de se présenter.
C'est ma femme aussi, je tiens à le dire. Donc, il y a comme un air de familiarité.
Du coup, Daria Marx,
oui,
vous
bonjour.
Êtes... tu as cofondé l'association Gras Politique il y a un petit paquet d'années maintenant.
Ouais.
Tu as pu écrire un livre qui avait déjà été un grand succès à l'époque. Si, quand même.
Qui gros... s'était un peu vendu. qui restons
gros,
humbles.
Gros n'est pas un gros mot.
Ouais.
Aux éditions Flammarion.
Oui.
Et ensuite, tu as plusieurs textes qui sont parus dans différents livres collectifs. Un texte Gros et mon genre.
Oui.
Mon genre, c'est gros, c'est grosse. Dans Feu, chapeauté par Elsa Dorlin, oui. Aux éditions Libertalia déjà. Oui. Et puis un autre
Première
texte...
rencontre avec Libertalia, ouais. Cette noble maison.
Bah, on en reparlera, mais un autre texte dans Fruit de la colère, plus récemment. Et peut-être d'autres textes à venir, tu nous en parleras. Mais moi, j'avais une première question. Ce livre, du coup, tu l'as écrit seul pour la première fois. C'est un gros bouquin par rapport à ce que tu as fait avant. Et je voulais savoir, est-ce que tu as eu du mal à trouver toutes les ressources qui t'ont permis de documenter, de citer des études, Oui, de nommer en tout cas tout ce qui s'est fait dans le champ de la recherche, notamment sur la question de la grosseur, de la grossophobie, parce que c'est un texte et un livre qui est très documenté et très sourcé.
Ouais, c'est une bonne question, parce qu'en fait, moi, je viens du blog. À la base, j'ai pas du tout une formation d'écrivain, d'autrice, bref. Donc, je viens du blog, donc moi, je suis très à l'aise pour écrire trois paragraphes un peu percutants et les poster. Ça marche bien, c'est super. Mais pour écrire sur le long, c'est vrai que c'est un autre métier, quoi. C'est une autre manière de faire. Et puis, sur écrire sur un truc qui me tient tellement à cœur, qui est la lutte contre la grossophobie, c'était encore plus important de faire les choses bien. Donc, est-ce que c'est compliqué de trouver des sources? Non, parce que Internet mondial, etc., etc. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des sources qui ne sont pas déjà biaisées par la grossophobie? C'est ça la question, en fait. Parce qu'on se retrouve sur la grossophobie aujourd'hui, ça va être, l'association de médecins qui luttent contre l'obésité. Bon. Ok. Est-ce qu'on va trouver des sessions de patients qui vont faire la chirurgie bariatrique? Alors, ok, mais ils ont évidemment un avis biaisé sur le sujet. Bon, alors déjà, comment est-ce qu'on va trouver des sources? Moi, ce que je déplore un petit peu, c'est d'avoir dû utiliser beaucoup, beaucoup de sources nord-américaines, notamment états-uniennes, parce qu'en France, il y a très, très peu de recherches sur la grossophobie. Il n'y a pas de fat studies comme il peut y avoir en Amérique du Nord, en France, même si on a une ou deux sociologues qui travaillent sur le sujet dont Solène Karoff, qui a fait un excellent livre sur la grossophobie que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'on aimerait avoir des sources qui nous parlent. Alors on est obligé d'aller chercher dans une littérature sur l'obésité quand on voudrait parler de grossophobie. Donc on va aller chercher en fait, parce que souvent les initiatives nationales de lutte contre l'obésité, elles consacrent un petit bout à la lutte contre la discrimination pour faire chic. Donc il y a un petit sondage pour savoir comment les gens se sentent, etc. Donc on va aller se servir de ça, mais c'est jamais pensé en premier lieu en fait. Il n'y a pas vraiment de... On ne se saisit pas du sujet de la grossophobie dans le champ de la recherche en France. Donc ça, c'était, il fallait faire le tri et il fallait aller chercher malheureusement aux États-Unis principalement, au Canada, en Angleterre aussi un petit peu. En France, c'est très très limité. Ou alors, c'est des, par exemple sur la discrimination à l'embauche, sur la discrimination à l'apparence, on a des recherches en France, mais qui commencent à dater. Enfin, en fait, ça commence à dater très vite en termes de recherche, mais qui ont commencé à avoir 20 ans, quoi. Donc, il serait temps de renouveler un peu le genre, qui sont en plus faits par des, no offense, mais des vieux mecs blancs universitaires qui ont quand même une manière de faire qui sont un peu... voilà, c'est marrant parce que un de ces mecs-là qui est gentil en plus, je lui en veux pas perso, mais il s'appelle Amadieu et j'étais invitée avec lui pour parler du bouquin à la radio récemment, et c'est très marrant parce que bah du coup j'ai pas pu en placer une, quoi, parce que le gars a écrit un bouquin sur la discrimination à l'apparence il y a 20 ans, moi j'étais là pour vendre mon livre et c'est lui qui a parlé pendant toute l'émission de radio. J'étais là, non frère, écoute, bon, ça suffit maintenant. Donc ouais, c'est un peu difficile d'arriver, surtout que moi je suis pas chercheur, j'ai un bagage universitaire mais qui n'a rien à voir avec ça, enfin qui est en plus pas très ouf, donc en termes de légitimité il faut arriver solide, quoi, sur ses arrières pour ouais. Et puis c'était important de documenter parce qu'on est très attaqué sur la grossophobie, sur c'est un délire du wokistan et n'importe quoi et c'est la promotion de l'obésité tatati et tatata. Donc c'est à mon sens très important d'apporter des réponses qui soient sourcées parce qu'on en a en fait, donc servons-nous-en. Et après sur la santé, notamment sur la grossophobie médicale, c'était très important pour moi d'aller chercher les chiffres, de dire ok, voilà, en France il y a tant d'ambulances bariatriques, il y a tant de départements où il n'y a pas d'ambulance pour les personnes qui pèsent plus de 120 kilos. Qu'est-ce qu'on fait ? En France, il y a tant de services où il n'y a pas de brancard pour les personnes qui pèsent plus de 120 kilos. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin voilà, pour moi, c'était important d'avoir ces chiffres-là. Et ça, j'ai été les chercher dans les forums des internes. D'ailleurs, c'est très inquiétant parce que tu as vraiment accès à toutes les commandes des CHU de toute la France. Si tu cherches un peu sur net, tu es là, mais c'est ouf en termes de données ce qu'on trouve, quoi. Mais bon, voilà.
Merci. Mais t'en as un peu parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin, il y a plus de ressources en anglais issues des cultures nord-américaines. Et toi, t'occupes un créneau qui, en littérature française, a été très très peu nourri. Enfin, il y a peu de livres en français sur la question de la grossophobie. Et du coup, ce livre s'organise autour de 10 questions, 10 chapitres. Et il y en a qui sont un peu plus entendus par le grand public, la question de l'accès aux vêtements, la question de la grossophobie médicale. Mais ce qui est chouette à mon sens, moi j'ai appris beaucoup de choses en te lisant, c'est tu reviens sur l'histoire de la lutte contre la grossophobie dans le monde, mais aussi en France. Est-ce que tu peux un peu rappeler
Ouais, en fait ça me tenait vachement à cœur de faire ça, parce qu'en fait si je suis là aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont été avant moi. Et je pense que c'est super important de dire qu'on n'est jamais une génération spontanée et que nos luttes, elles apparaissent pas toutes seules comme ça. D'abord, il y a la grande histoire de la lutte contre la grossophobie qui commence, encore une fois, malheureusement, je ne sais pas, aux États-Unis, avec des femmes grosses, racisées, qui vont dire, au moment de la lutte pour les droits civiques, en fait, on est des femmes noires, mais aussi on est aussi des femmes grosses et noires. Et en fait, le début de l'intersectionnalité, bon, même si ça ne s'appelait pas comme ça, puisque le concept a été développé plutôt dans les années 80, mais c'était quand même les prémices de l'intersectionnalité, c'était ça. Après, malheureusement, les mouvements de fat libération, comme on dit là-bas, ils ont été impulsés plutôt par des mecs qui bandaient sur des meufs grosses. Donc c'est ça qu'on peut regretter aujourd'hui dans l'histoire. Mais au début, c'était un mari qui souffrait de voir sa femme complexée, qui s'est dit, il faut que je fonde une asso pour que ma femme aille mieux. Et en plus, j'aime bien les grosses, donc comme ça, je verrai plein de grosses, donc ça sera super. Bon, écoutez... Au moins, il aura servi à ça.
C'est un truc qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Mais,
ouais. Oui, c'est ça, ça existe toujours aujourd'hui. Donc, c'était important de revenir là-dessus, de revenir aussi sur aussi les origines de la grossophobie. Parce que c'est vrai que moi, de par ma formation militante, il me tient à cœur d'avoir une grille de lecture intersectionnelle. Donc, de rappeler que la grossophobie, elle s'établit dans un système de domination, et notamment à cause du racisme. C'est l'auteur afro-américaine Sabrina Strings, dans son livre Fearing the Black Body, qui explique très bien que c'est le colon blanc, quand il arrive auprès de populations noires qui veut coloniser, qui est obligé de décréter que cette différence des corps qu'il y a entre les blancs et les noirs, elle se joue à la défaveur des noirs, et que c'est le corps blanc qui est supérieur. Parce qu'en fait, comment il va réduire en esclavage un peuple s'il ne s'auto-proclame pas dominant, quoi. Et donc ça part de là, en fait, le racisme, l'espèce de socialisation biologique du racisme, et la grossophobie, elle naît de ça aussi, quoi. Donc tout ça, ça me tenait vachement à cœur de le rappeler pour remettre un peu les choses à leur place. Et puis en France, il y a eu une lutte aussi qui était peut-être plus discrète, parce qu'on en a moins entendu parler. Mais en fait, depuis les années 80, il y a un mouvement, en France, quoi. Ça s'appelait Allegro Fortissimo. Ça a été fondé par une dame qui s'appelait Anne Zamberland, qui était une espèce d'artiste un peu fantasque, qui a posé à moitié à poil pour Virgin Megastore en tenue de déesse grecque dans les années 80. Et qui a écrit les premiers livres qui s'appelaient Coup de gueule contre la grossophobie. C'est un livre qui date des années 80. Et ça existait déjà, en fait. Et elle portait une parole qui était forte. Elle a fondé donc cette association qui s'appelait Allegro Fortissimo, dont le but premier, c'était vraiment, c'était pas les bons mots parce que c'était les années 90, mais je vais le dire avec mes mots à moi, c'était d'empouvoirer, en fait, les femmes et les personnes grosses, parce que c'était des rencontres, c'était des fêtes, c'était des échanges de vêtements, c'était vraiment de l'empouvoirment tel qu'on le fait, on peut le faire aujourd'hui avec la politique. Et puis c'était Anne, elle avait le sens de la fête, en fait. Elle voulait que les grosses fassent la fête. Elle avait une compagnie de danse. Elle voulait faire danser les meufs grosses. Ça lui tenait vachement à cœur. Enfin, elle avait vraiment ce truc de fête. Et puis à côté de ça, il y a un mouvement un peu militant qui a commencé à s'infiltrer dans Allegro et qui sont un peu fightés tout au long de la vie de l'association. Dans nous, on veut faire la fête. Nous, on veut militer. Nous, on veut faire la fête. Nous, on veut militer. Après, il y a eu d'autres trucs qui se sont créés. Aujourd'hui, il y a des collectifs qui continuent cette lutte-là. À Toulouse, il y a la lutte des grâces qui était là pendant un moment, qui est en train de se reformer. Enfin, il y a des choses qui existent un peu partout en France. Ça existe, quoi. Ça existe et ça a existé. Et moi, j'ai découvert le féminisme parce que j'étais grosse. Enfin, si j'avais pas été grosse, je suis pas sûre que je serais féministe, en fait. Enfin, c'est un peu un délire, mais... Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'étais grosse et je voulais rejoindre des grosses, une association de grosses que je ne comprenais pas, en fait. Ça m'apparaissait très clair que je n'étais pas traitée comme tout le monde, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'ai rejoint Allegro Fortissimo quand j'avais 18 ans. Et c'est ces meufs grosses-là, ces personnes grosses-là qui m'ont reçue à Allegro Fortissimo quand j'avais 18 ans, qui m'ont enseigné sans dire le mot, parce qu'elles étaient, je ne pense même pas qu'elles se diraient féministes, elles, mais qui m'ont en tout cas donné de la force et qui m'ont permis de découvrir ce que c'était avoir des droits, avoir des revendications, porter des revendications, etc. Donc pour moi, c'était vraiment important de leur rendre hommage et d'écrire leur nom dans un livre, même si c'est qu'un tout petit livre, voilà. Mais moi, ça me tenait vachement à cœur de le faire, quoi.
Oui, parce qu'en plus, c'est une histoire qui n'est pas documentée, quoi. Enfin,
très, très peu.
Moi, j'ai l'impression que je baigne dans le milieu militant contre la grossophobie depuis quelques années et c'est des nanas dont j'avais jamais entendu parler, quoi. Donc,
ouais, c'est très, très peu. Ou alors, c'est des entretiens qui sont faits par des universitaires dans des thèses, mais un plus large public qui n'a pas tellement accès. Et pour moi, rien qu'écrire leur nom, vraiment, ça m'a émue, quoi. J'avais vraiment... Enfin, c'est un tout petit hommage, mais enfin, moi, ça me tenait à cœur, quoi.
Oui, ça les fait rentrer dans l'histoire, quand même.
Un petit peu, quoi. Je me dis, vraiment, c'est des nanas qu'on consacrait 10-15 ans de leur vie à la lutte et qui m'ont vachement ouvert les yeux sur plein de choses. Alors, bien sûr, je pourrais revenir en disant que c'était imparfait, que c'était pas tout à fait ce qu'on voulait, que c'était pas assez politique, que c'était plein de choses. Mais n'empêche que sans elles, je serais pas là, quoi. Donc, c'était vachement important de le dire.
T'en as un peu parlé, mais du coup, clairement, la grossophobie, c'est une discrimination qui est genrée, enfin, qui concerne différemment les personnes selon leur genre. Et tu l'as un peu dit aussi, c'est fondamentalement raciste. Dans les dix chapitres que t'écris, il y en a plusieurs même qui concernent la grossophobie médicale. Est-ce que tu peux un peu nous parler des biais racistes qui sont un peu au fondement, notamment avec l'IMC? Au fondement des discriminations qu'on subit, nous, toujours, aujourd'hui, quoi.
L'IMC, c'est une mesure c'est la taille, le poids au carré. Enfin, c'est vraiment ce que dit le médecin avec sa petite roue en disant vous êtes à 23, vous êtes à 37, vous êtes à 48. Enfin, et c'est censé déterminer votre état de santé. En fait, si vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Si vous êtes au-dessus de 30, vous êtes en obésité. Si vous êtes au-dessus de 40, vous êtes en obésité massive, morbide, monstrueuse, selon les mots que la médecine veut bien utiliser à ce moment-là. Donc c'est un indice qui est pensé par un mec qui s'appelle Kettley, qui se dit je voudrais faire des statistiques pour pouvoir écrire et décrire de manière statistique et mathématique l'homme normal. Mais normal, il faut entendre la norme de l'homme, en fait. Et sauf que pour calculer ce truc-là, il va prendre les gens autour de lui qui sont plutôt des mecs blancs, anglais, voilà. Et donc, il va déduire que la santé, c'est plutôt ça. Mais c'est même pas la santé au début, c'est vraiment juste l'homme normé, combien il pèse, combien il est grand. Et en fait, déjà, bon, ça évacue toutes les autres sortes de corps parce qu'il n'y a aucun corps racisé qui a été pris en compte dans ces calculs. Au départ, ce n'est pas du tout un truc de santé. C'était vraiment juste pour dire, bah oui, l'homme moyen, il fait plutôt 1 mètre machin, il pèse plutôt tant de kilos. Ça a été repris après par les assurances qui ont commencé à dire, ah bah si vous sortez de la norme, on va vous appliquer des surprimes. Et après, seulement la médecine s'est dit, ah c'est quand même bien pratique leur truc. On va le reprendre. Bon. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans les années 1990, l'indice d'IMC n'était pas nomenclaturé pareil. C'est-à-dire qu'on n'était pas obèse à partir de... On n'était pas obèse à partir de 30, on était obèse à partir de 35. Et du jour au lendemain, aux États-Unis, l'OMS s'est rassemblée. Ils ont décidé que l'obésité était une épidémie. Et donc, ils ont descendu les IMC. Et donc, ils ont décidé qu'on était obèse à partir de 30. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas obèses la veille et qui se sont réveillés obèses le lendemain. Et ça, je trouve, c'est quand même un truc très frappant pour moi de se dire, voilà quoi. Alors, encore une fois, je suis pas là pour nier ni la science ni la médecine. Je suis pas là pour dire que le surpoids ne peut pas être un facteur de risque dans certains aspects de santé. Enfin, vraiment, je fais pas du tout ça, mais je pense juste qu'il faut revoir la manière dont on traite les gens et arrêter de leur appliquer des grilles de lecture qui n'ont plus aucun sens, quoi. C'est ça.
Et puis tu cites beaucoup d'exemples pour montrer parce que j'ai l'impression que le grand public ne saisit pas la gravité de ce qui se joue dans l'accès aux soins pour les personnes grosses. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle même au sein de Gras Politique, mais que la gravité elle n'est pas saisie. Et tu donnes beaucoup d'exemples, tu t'en parlais tout à l'heure, la question des ambulances qui concrètement ne pourront pas venir nous chercher selon le département dans lequel on est si on se casse une jambe, quoi. Tu parles des lits bariatriques dans les hôpitaux, tu parles de...
Oui, alors c'est l'équipement, en fait. Tout l'équipement des hôpitaux qui, pour les personnes grosses, on dit bariatrique. Donc c'est un lit bariatrique, un
fauteuil roulant.
Fauteuil roulant, un...
Ah merde. Ah.
Oui, un brancard. Tout ça est bariatrique et c'est un kit bariatrique. Donc les grands CHU, ils achètent des kits bariatriques qui, c'est vrai, coûtent plus cher que les kits normaux. Voilà. Mais sauf qu'en fait, on ne peut pas hurler à la fois qu'il y a de plus en plus de gros, que c'est une épidémie, qu'on va tous déborder de gros, et ne pas acheter de kit bariatrique. Ça ne fait aucun sens. Soit on fait une politique de santé qui s'occupe de la santé publique, c'est-à-dire de tout le monde, et donc on prend en compte le fait qu'il y a de plus en plus de gros et qu'il va falloir les soigner à un moment. Et même pas les soigner parce qu'ils sont gros, juste les soigner parce qu'ils se cassent la jambe, qu'ils ont un cancer, que plein de choses, qu'ils s'ouvrent, qu'ils se brûlent avec quand ils font des frites, enfin je sais pas. Il va bien falloir les soigner, ces gens-là qui sont, on nous dit, une épidémie, une pandémie de plus en plus nombreux. Enfin c'est ça, moi, qui m'en ouf, c'est vraiment le French paradoxe de dire oulala, on a de plus en plus de gros, mais surtout on achète de moins en moins de matos pour les soigner, quoi. Enfin, à un moment, il va falloir que les choses se rencontrent, sinon on va vraiment vers un scandale sanitaire qui est déjà grave et qui va l'être encore plus, quoi.
Et merde, j'ai oublié ma question parce que
sinon je continue à parler, hein.
non mais oui, tu dis aussi dans tout, plutôt la fin de ton livre, que quand on est gros et qu'on ne cherche pas à maigrir, la dignité, elle se perd encore plus. Et ça se retrouve aussi dans l'accès aux soins. Et que si on n'est pas dans une démarche d'amaigrissement, c'est un peu niqué pour nous, quoi. Enfin, même les médecins, dans le peu de dignité qu'ils nous accordent, on les perd, quoi.
Mais partout, en fait. Enfin, moi, je trouve ça très frappant à quel point le regard des gens change quand on arrive chez un médecin et que... On a tendance à faire ça, les gros, à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, nanani, nanana. Et moi, avant, je faisais la carte. Ouais, je sais que je suis grosse, mais là, je suis vraiment dans un parcours d'amaigrissement. C'était complètement faux, mais je me dis, il va me lâcher la grappe après. Et le médecin, il dit, ah, c'est bien, vous avez compris. Et je suis là, ouais, très bien. Et après, il me soignait normalement. Mais si j'arrivais, je disais, ouais, bah, je suis grosse, mais enfin, ça va, merci. Là, c'était Bérézina, grossophobie médicale, etc. Donc, c'est très bien. Mais après, vraiment, l'idée de dire qu'en France, aujourd'hui, si vous voulez faire une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire une chirurgie de l'obésité, un bypass, une sleeve. Là, bizarrement, il y a des services avec des lits qui montent jusqu'à 250 kg, des blocs opératoires qui montent jusqu'à 300 kg. On vous anesthésie, alors qu'il y a plein de refus d'anesthésie. Ah, t'es trop gros, je vais pas t'anesthésier. Bah, je comprends pas, tu veux pas m'anesthésier pour me remettre la jambe droite, mais tu veux m'anesthésier pour m'enlever la moitié de l'estomac. Je comprends pas l'idée, en fait. Et là, bizarrement, on trouve. Donc, en fait, vraiment, cette idée que la dignité, on est tout le temps en train de la marchander avec notre poids et notre l'amaigrissement en disant « D'accord, je vais maigrir, je vais être sage, alors s'il te plaît, soigne-moi. » Et pour les gens qui ont besoin de prothèses de genoux et de hanches, ça devient un chantage qui est très dur. Pourtant, toutes les nouvelles études prouvent que c'est OK d'opérer les gens, même très gros, sur des prothèses articulaires de genoux et de hanches, que oui, il y a des précautions à prendre, que par exemple, on ne va pas les lever le lendemain, comme on lève par exemple des gens minces sur des prothèses totales de hanches, on peut les lever le lendemain ou le jour même. Les gros, ça prend plus de temps. Enfin, il y, y a des choses, effectivement, qu'il faut prendre en compte pour les personnes très grosses, mais c'est faisable, c'est OK, il n'y a pas de risque post-opératoire vraiment démultiplié. Enfin, c'est très, très faisable. Et pourtant, aujourd'hui, on a plein de gens qui se font refuser la prise en charge de douleurs chroniques terribles des genoux, des hanches, en disant « Maigrissez de 40 kilos d'abord, revenez après. » Et ça, ce n'est pas possible, quoi. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ne perdront jamais 40 kilos. C'est impossible. Ils ne le feront pas. Ils ne pourront pas. C'est, ça serait même les mettre en danger de leur faire perdre rapidement 40 kilos. Enfin, bref. Et même si la personne perd 40 kilos, comment elle va les prendre? En faisant un régime? Bon, je ne vous fais pas le couplet, sur 95% des régimes sont des échecs à 5 ans. Je pense que ça, c'est un peu rentré dans le... de tout le monde. Bon, à part des influenceuses qui vous vendent des trucs et des machins, mais ça, c'est une question de bon sens après, quand même, à un moment. mais même si tu vas faire une chirurgie bariatrique, imaginons, tu veux perdre 40 kilos, tu vas faire une chirurgie bariatrique, ok. Tu as un an de préopératoire. Donc un an, tu restes avec ton genou pourri, ta hanche pourrie. Donc tu fais pas, t'as pas la mobilité que t'avais avant, tu peux pas sortir de chez toi, peut-être t'as perdu ton boulot parce que tu peux plus bouger, peut-être t'as plus de vie sociale parce que tu enfin tout est compliqué, etc. Un an de pré-op pour faire les examens, les machins, le truc, le suivi, nanana. Après tu te fais opérer, ok. Après t'as deux ans pendant lesquels on t'opère pas parce qu'on considère que t'es un peu à risque deux ans après une chirurgie bariatrique parce que ton corps il a pris un peu cher, etc. C'est à dire qu'on va te faire encore rester trois ou quatre ans avec ton genou ou ta hanche pourrie. Enfin c'est exactement la même logique avec les personnes grosses qui sont refusées de la PMA au-delà d'un IMC de 30 dans certains centres de PMI, à qui on dit « Madame, monsieur, allez faire une chirurgie bariatrique ». L'âge moyen de la PMA en France est 32-33 ans. Donc, appliquer les mêmes années, c'est-à-dire entre 3 et 4 années, la perte de chance en termes de fertilité pour les personnes qui veulent accéder à la PMA, c'est gravissime de les faire attendre. Alors que, oui, la PMA, sur des personnes très grosses, ça peut être un peu plus compliqué. Je dis pas le contraire, mais on a les outils, on a une médecine incroyable, on sait le faire. Arrêtez d'emmerder les grosses, en fait. Enfin, c'est tout.
Oui, pas de PMA en France pour nous. Hein.
Bah, la PMA pour tous, bah, on attend, nous. Hein. Les grosses, on n'y est vraiment pas encore. Et en plus, ce qui est très difficile, c'est que si on voulait faire une action, je sais pas, en justice, enfin, moi, je crois pas, mais si on voulait le faire, en fait, il n'y a pas de texte de loi qui dit au-delà de 30, on le fait pas. C'est les centres de PMA qui décident eux-mêmes à quel IMC ils vous disent non. Donc, il y en a, ça va être 30, il y en a, ils vont négocier à 32, il y en a, ça va être 35. Mais il y a des gens, ils vont dans toute la France demander et supplier. Nous, on a des personnes grosses qui font appel aussi au comité d'éthique des hôpitaux pour plaider leur cas. Enfin, ça va très, très loin, quoi.
Ouais, et puis tout ça, ça représente une charge mentale supplémentaire.
Et ça, je parle des couples hétérosexuels où c'est monsieur dans madame, etc. Je parle même pas... Parce qu'il faudrait pas trop leur compliquer la tâche avec des histoires de genre ou de gamètes ou de je ne sais quoi.
Mais c'est une question qui est un peu complexe et même au sein de Gras Politique, on se pose souvent la question, mais on nous renvoie souvent l'idée qu'on est gros, donc on est malade. Est-ce que toi, tu as un positionnement qui... Tu as une réflexion en tout cas autour de cette question de est-ce qu'il faut que ça soit considéré comme une maladie chronique? Est-ce que tu penses que ça nous aiderait dans l'accès aux soins, dans l'accès...
Je n'ai absolument pas de réponse. Je n'ai que des pistes de réflexion à proposer. En ce moment, il y a une très grosse poussée pour que l'obésité, donc avoir un IMC supérieur à 30, soit reconnue comme une maladie chronique. Pourquoi? Parce que ça permettra le remboursement des nouveaux médicaments contre l'obésité, c'est-à-dire l'Ozempic, le Wegovy, tous les injectables dont vous avez dû entendre parler, qui sont les nouveaux trucs géniaux, qui vont tous maigrir, ça va être super. C'est faux, on le sait, ça y est.
C'est les médicaments, a priori, d'abord destinés aux personnes diabétiques.
Aux personnes diabétiques, pour faire baisser la glycémie. Et en fait, ils ont découvert que ces médicaments, ils provoquent une vidange imparfaite de l'estomac. Donc en fait, on ne mange plus parce qu'on a tout le temps la gerbe, excusez-moi pour les mots, mais c'est un peu ça qui se passe. C'est comme ça que ça passe, et en fait, les gens ne mangent plus parce qu'ils ont toujours l'impression d'avoir une indigestion, parce qu'en fait, la vidange de l'estomac est ralentie et donc ils sont à la fois constipés et ils ont vraiment une vie de rêve.
Déjà, plus, et là, on découvre de plus en plus qu'en plus, ça a des effets très mauvais sur le pancréas. Il y a beaucoup de pancréatite aiguë, de cancer du pancréas à cause de ces trucs-là. Il y a une alerte il y a 2 ou 3 jours sur des incidents cardiaques aussi qui sont liés à ces injectables. Donc bon, il faut aussi se dire qu'en termes de jurisprudence de la médication de l'obésité, on n'est pas bon, hein. Le Mediator, l'isoméride, je ne sais pas si ça parle à des gens ici, mais c'est des saloperies qui ont fait juste bousiller les valves cardiaques des patients qui les ont pris, des patientes qui les ont pris. C'était dramatique. Donc, moi, je suis très, très étonnée. D'abord que les laboratoires aient réussi à infiltrer. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis étonnée, je le sais, mais vraiment, quand j'ai ouvert le dernier rapport sur le traitement de l'obésité qui a été rendu au Premier ministre et que j'ai vu que dans ce rapport, il y a 2 laboratoires qui produisent des injectables qui se sont immiscés et qui ont été reçus 5 fois par les services du Premier ministre pour élaborer la politique de santé publique sur l'obésité, c'est incroyable. Et ces laboratoires, ils ont une maille à se faire sur le dos des gros qui est incroyable. Et ils poussent vachement, donc, pour reprendre sur la question, pour que l'obésité soit une maladie chronique, pour que ça soit remboursé, en fait, ces injectables, et qu'ils se fassent une maille incroyable. Parce qu'aux États-Unis, où il n'y a pas de système de sécurité sociale, chaque injection, c'est 1 300, 1 000 $. Enfin, c'est vraiment des produits qui sont très, très chers, parce qu'ils sont, encore sous brevet, ils ne sont pas passés dans le... Il n'y a pas de générique, enfin voilà. Donc c'est très très cher et donc ils ont une maille astronomique à se faire. Donc voilà, donc, pour ça, moi je serais plutôt contre. Mais d'un autre côté, et aussi parce que, par exemple, dans les histoires de discrimination à l'embauche, imaginons que vous êtes discriminé, non pas à l'embauche, au travail. Une dame, un cas réel, se fait traiter de grosse truie, de grosse vache, tu pues parce que t'es grosse, etc. Enfin des horreurs par son employé. Elle finit par se barrer, elle porte les prud'hommes, machin, elle arrive au prud'hommes et elle rapporte tout ça, elle a des preuves, des écrits, enfin vraiment son dossier est très solide. Les prud'hommes vont statuer pour elle en disant oui, il y a eu faute, tu vas prendre des sous, mais ils vont pas du tout retenir la grossophobie, ils vont dire vous avez insulté quelqu'un qui est malade parce que madame est grosse. Alors que madame, elle se considère pas du tout comme madame se considère pas du tout comme malade. Elle est grosse, mais le prud'homme dit ah bah elle est obèse donc elle est malade donc on va retenir qu'il y a eu insulte sur une personne malade et donc c'est plus grave encore que d'insulter quelqu'un qui est pas malade, etc. Donc c'est un peu pernicieux le truc en fait parce qu'en fait t'as jamais demandé à être classé dans les malades et tu te retrouves à bénéficier d'un jugement qui va quand même en ta faveur parce que tu vas toucher des sous. C'est un peu chelou. À côté de ça. La réalité des faits de l'obésité, je déteste ce mot, mais disons les mots en France, c'est que plus t'es gros, plus t'es pauvre, en général. Plus t'es pauvre, généralement, moins t'as accès à la médecine de qualité, ou alors t'es dans des territoires où il y a peu de médecins. Donc est-ce qu'on pourrait penser que passer l'obésité en maladie chronique, ça va permettre d'avoir un accès aux soins mieux ? Pour l'instant, j'en ai pas la preuve. C'est ce que j'espère de mes voeux. Si jamais ça se passait, c'est le seul truc qui serait bien, je pense. Après, moi, je suis vraiment sur les traitements de l'obésité. Enfin, bref, moi, je suis toujours très surprise du fait qu'on dit « Ah, vous avez qu'à faire du sport et à moins manger. » Ok, est-ce que la Sécu rembourse faire du sport ? Vous avez essayé de faire du sport adapté ? Parce que quand tu fais 150 kilos, juste, tu décides pas de faire du sport comme ça. Il faut un peu qu'on te montre les bons gestes, sinon tu te blesses et t'arrêtes de faire du sport et c'est nul. Mais les gens qui sont diplômés de sport adapté en France, déjà, ça coûte une blinde. Il y en a genre 3, à Paris, il y en a 3. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, c'est vraiment, c'est alors que si tu, on t'envoie encore faire des cures à Brive-les-Bains pour que tu boives de l'eau des montagnes et que tu trempes dans la piscine. Enfin, il y a vraiment des choses au niveau de la sécu, moi, qui me semblent très très bizarres. Quoi.
Les oiseaux. Non, ça a fermé les oiseaux.
Les oiseaux, c'est le pensionnat pour les jeunes gros dans lequel on menace tous les jeunes gros entre la 6e et la terminale de dire si tu grossis, on t'enverra aux oiseaux. Et c'était un pensionnat public, ouais, pour les petits gros où on forçait les enfants à faire 4 heures de sport par jour, monitorer les repas, etc. Et donc qui repartaient très amassés dans leur famille. Ils revenaient ensuite bien grossis pendant leurs vacances, puis ils reperdaient. Puis voilà.
Très dépressif.
Très dépressif, c'est super. Et il y a un excellent documentaire qui suit des ados qui ont été suivis dans cette clinique, genre 10 ans après. Bizarrement, ils ne sont pas tous maigres. No spoil, mais ça marche pas très bien.
Ni maigres, ni très heureux. Quoi.
Ni maigres, ni heureux. Ouais.
Ouais.
C'est un film français. Ni maigres, ni heureux.
Mais bah tiens, en parlant de ça, tu le dis dans ton bouquin aussi, la question de l'image de la femme française notamment, elle joue et elle participe aussi beaucoup à nourrir tous les discours grossophobes. Ouais. Et il y a un truc qui s'appelle le French Paradox. Enfin, peut-être que tu peux nous en parler un peu. Mais
Le French Paradox, c'est l'idée qui est développée dans les années 80, selon laquelle, qui est pseudo-scientifique, selon laquelle les Français ne prennent pas de poids, les femmes françaises ne prennent pas de poids, parce qu'elles boivent du vin.
et qu'elle mange des excellents mets, des excellents fromages, des excellentes charcuteries, mais en toute petite quantité, parce qu'elles sont très délicates, et donc c'est le French paradoxe, parce que les Françaises mangent de la viande, boivent du vin, mais n'ont pas de cholestérol, et sont très maigres, et ressemblent toutes à Charles Gainsbourg, et tout ça. Bon. Non, ça ne marche pas. En plus, après, il y a une dame qui écrit un livre qui s'appelle French Women Don't Get Fat, qui va devenir un espèce de vraiment de livres vendus à des millions d'exemplaires partout, donc les femmes françaises ne deviennent pas grosses. Bon, excusez-moi de vous démentir le truc. Donc bah, c'est n'importe quoi. Mais oui, le French paradoxe, pendant un moment, c'était de penser que les Français avaient une espèce d'alimentation incroyable qui les protégeait de devenir gros. Mais vraiment, on ne sait pas d'où ça sort, parce que ça n'avait aucun lien avec la réalité. Et oui, enfin, la France est vis-à-vis de la mode, de la représentation des corps, on est quand même un pays encore méga genré et méga dans une espèce de binarité de genre où la femme doit être élégante, fine. Enfin, vous savez, je ne vais pas me répéter trois fois. Et le corps gros est complètement sort en fait de ces normes de genre, quoi, quelque part. Je pense qu'il y a vraiment, moi, je vois vraiment des parallèles super intéressants à développer, et j'appelle de mes voeux que des chercheurs ou des gens fassent ça, pas entre les trajectoires des corps trans et les trajectoires des corps gros, parce que je pense qu'il y a vraiment des parallèles entre la manière dont on est traité par l'institution médicale, la manière dont on est en recherche par rapport à nos identités de genre, parce que bah, les corps gros, soit les caractères sexuels secondaires sont amplifiés, soit le gras les modifie, ils ne sont pas au bon endroit. Pour les gens qui sont identifiés hommes à la naissance, bah, il va y avoir une certaine dévirilisation si on en croit la norme, parce qu'ils vont avoir de la poitrine, ils vont avoir des formes qu'on qualifie de plus féminines. Certaines femmes grosses vont être au contraire taxées de viriles parce qu'elles sont imposantes, parce qu'elles font peur, parce qu'elles sont des ogresses, parce que vraiment il y a des trucs au niveau de l'identité de genre qui se jouent sur le gras, sur la manière dont on prend du volume dans l'espace. C'est-à-dire que plus les femmes prennent du volume mais physique dans l'espace, plus elles sont vues comme pas des femmes. Enfin, c'est quand même très bizarre, quoi.
Et tu parlais un peu de la France. Toi qui as voyagé un peu, est-ce que tu as l'impression d'avoir un petit peu... Enfin,
on dirait que j'ai fait le tour du monde.
Ah ouais. Tu as déjà été en Angleterre. Est-ce que tu as, toi, senti un regard différent, une perception différente des personnes grosses, je sais pas, en Angleterre, en Allemagne,
Aux États-Unis? Pendant un moment, l'Angleterre, c'est un peu l'Eldorado des grosses. Parce que déjà, il faisait du 52 dans toutes les boutiques, un peu de partout où on allait, dans tous les équivalents H&M, etc. Alors oui, c'est pas bien, on sait, mais là, bon, c'est un autre sujet, la fast fashion et les grosses, mais... Donc il y avait du 52, donc ça nous paraissait incroyable déjà qu'il y ait ça. Et puis il y avait cette espèce de flegme anglais où tu peux sortir dans la rue avec une crête et des talons aiguilles, et tout le monde s'en fout. Et donc ça avait un peu cet aspect de repos, en fait. Et en fait, quand tu regardes les positions actuelles de la NHS, donc de la Sécu, enfin de la santé publique anglaise en ce moment, c'est pas du tout cool, en fait. Hein. Maintenant, alors il y a un truc qui a été voté à la NHS, c'est que maintenant, vraiment, ils font pas les chirurgies, ils te refusent vraiment tant que t'as pas perdu du poids. C'est acté, ils ne font plus certaines chirurgies qui qualifient comme pas urgentes si tu perds pas du poids. Enfin, il y a vraiment des programmes qui sont serrés la vis. Et puis en Angleterre, c'est quand même le pays où on enlève les enfants des parents gros, quoi. On considère que les enfants de parents gros sont à risque de maltraitance parce que c'est une maltraitance de devenir gros. Et donc, on les enlève à leur famille. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas comme ça et c'est dramatique, quoi. Ouais. Donc non, je pense que l'Angleterre a beaucoup changé là-dessus, et aussi parce qu'ils sont confrontés à une pandémie, l'obésité, mais parce qu'en fait la pauvreté en Angleterre est en train de gagner. Il y a vraiment ils ont d'énormes problèmes de pauvreté, d'accès à la nourriture. Ils sont en train de développer en Angleterre ce qu'on voyait avant qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, ce qui s'appelle des déserts alimentaires, c'est-à-dire des zones kilométriques où en fait si on n'a pas de voiture, on ne peut pas avoir accès à des fruits, à des légumes, à des choses. On ne peut aller nous acheter que des trucs surgelés ou des trucs super faits par des
industriels, quoi.
Ah, voilà,
exactement ce que j'allais dire.
Et c'est dramatique, en fait. C'est toute une organisation du tissu alimentaire qui se casse la gueule et qui ne permet pas aux gens de se nourrir correctement.
Ouais. Mais là, tu le dis encore, la question de la grosseur, elle est très liée à la question de la pauvreté, elle est très liée aux questions féministes,
à la classe,
aux questions de racisme, aux questions de classe, oui. Aux questions de transphobie, enfin, à beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'à gauche, on est les oubliés du millefeuille des revendications?
Parce que ça fait chier,
je sais pas, à gauche et dans le féminisme, parce que...
Ouais. Bah, à gauche, c'est vrai que c'est...
c'est un peu la nouveauté c'est pas qu'on s'y intéresse. Après, il y a beaucoup de choses qu'on oublie à gauche, on va pas se mentir.
Oui, clairement. Enfin, j'ai l'impression que... Bon, alors, si on resserre, ouais. On est les oubliés du féminisme.
Oui, alors sur le féminisme, c'est vraiment flagrant. Flagrant. Les luttes féministes, à la base, c'est... Enfin, si on prend un peu l'ABC des luttes féministes, c'est genre... le droit à avorter, enfin je raccourcis, hein, mais la santé reproductive, le droit à avorter. Bon, bah, nous, par exemple, pour les gros, c'est pas acquis. Donc ça devrait vraiment être une lutte féministe encore inscrite. Et franchement, ça passe complètement à l'ouest de plein d'assauts féministes, de grandes féministes. Mais parce que je pense que les féministes, elles restent super grossophobes, elles ont super peur de grossir. Enfin, ça reste des gens pas déconstruits là-dessus du tout, et qu'il y a un vrai embarras en fait d'aborder ces sujets-là. Et puis il y a vraiment ce truc de cet argument qu'on nous dit toujours, mais c'est pour ta santé. Non mais oui, d'accord. Mais en fait, j'ai des problèmes d'accès aux soins dans ma santé. Est-ce que tu peux m'aider ? Ça c'est pas entendu. Il y a vraiment non, on a vraiment du mal à se faire entendre là-dessus.
Ouais, et puis moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc lié à un peu tout le phénomène d'empouvoirment des femmes, et puis de on n'en a pas parlé, on n'a pas prononcé ce mot miraculeux encore, mais de
du body positivisme
etc., qui nous fait beaucoup de mal en fait. Alors que est-ce que tu peux revenir un peu sur ce truc très complexe?
Je pense que oui, je pense que de manière à nous, en tant que groupe, en tant que le groupe des grosses, la classe des gros, je ne sais pas comment on peut le dire, mais ça nous a fait du mal, le body positive, en fait, alors que ça aurait dû nous faire du bien. Le body positive, à la base, c'est un mouvement de personnes grosses, plutôt des femmes grosses, qui se disent, on est sur Tumblr, on a une activité vachement soutenue sur Tumblr, mais on ne voit jamais de corps comme les nôtres. Et donc, on va se mettre à poster vachement de photos de nous, parce qu'on veut que les corps gros existent. Elles vont faire un travail presque de référencement Internet, en fait, où elles vont poster leur corps, mettre des hashtags pour que ça soit trouvable, et créer plein de Tumblr, etc. Et ça va faire boule de neige, et on va voir de plus en plus de gens qui vont oser se prendre en photo alors que ces personnes-là sortent des normes de genre d'une manière ou d'une autre. Et puis ça va être racheté par le capitalisme, et il va y avoir les pubs pour le savon et le gel douche avec des meufs qui sont un petit peu racisées, qui font peut-être un 44 pour vendre des gels douches, et tout le monde va applaudir en disant bravo, c'est vraiment super. Bon, et puis il va y avoir toutes les influenceuses qui vont sortir en deux pour dire regardez, moi aussi j'ai un bourrelet, c'est terrible. Bon, tout ça. Et en fait, ce que ça fait rire, moi aussi je rigole parce qu'il faut rire, mais le truc, c'est que en fait, les gens qui ont le plus besoin du body positive, c'est-à-dire les gens qui sont le plus éloignés de la norme, et que ce soit de la norme pondérale, de la norme de genre, de la norme de plein de choses, c'est ces gens-là qui souffrent de ça, quoi. Parce qu'en fait, on se retrouve exclu d'un mouvement qui devait nous servir, nous, et qui devait nous empouvoirer, nous. On se retrouve à la marge d'un mouvement qu'on a nous-mêmes créé. Donc non, je pense que ça nous a pas fait de bien. Et aussi, je trouve que ça a recréé une espèce de nouvelle norme où... qui n'est pas accessible à tout le monde, en fait, parce que la norme body positive, où il faut avoir un look, où il faut s'en foutre et tout ça, c'est une nouvelle injonction, en fait. Enfin, y a vraiment ce truc, quoi. Alors, la nouvelle tendance, c'est le body neutral, c'est-à-dire qu'on est neutre avec son corps et qu'on se dit « Ok, j'ai un corps, bravo, c'est super ». Bon, en fait, on fait bien ce qu'on peut avec notre corps, et quand on y arrive, c'est bien, et si on n'y arrive pas, c'est ok. Enfin, je pense que c'est déjà plus rassurant d'être neutre avec son corps et de le voir juste comme... mon corps, il m'emmène là où je veux, il me permet d'être là avec vous aujourd'hui, c'est super, mais en même temps, j'en fais pas une espèce de... C'est pas le féminin sacré, c'est pas le temple de mon plaisir, c'est pas je sais pas quoi, bon bref. C'est pas tous ces trucs un peu vachement essentialistes qui ont été un peu quand même vachement dans le féminisme ces 10 dernières années. On a eu des trucs un peu chelous, genre mon corps est mon temple, bon, ça suffit.
Oui, qui ont amené aux pires dérives du féminisme.
Absolument.
Mais c'est vrai que c'était un peu salé pour des personnes grosses d'entendre cette injonction à aimer son corps et il faut que tu t'aimes comme tu es, etc. Enfin, il y a un truc un peu salé.
En fait, moi, je fais un parallèle avec un autre truc. Excusez-moi, je vais être salée deux secondes, mais je suis à Toulouse, je dis ce que je veux. Ça me fait penser à ces meufs hétéro-féministes en ce moment qui sont hyper fiers de faire la grève du sexe. Mais meufs, les lesbiennes, elles font la grève du sexe hétéro depuis 200 ans et on t'emmerde. Enfin, je veux dire, et on n'est pas mortes et tout va bien. Et qu'est-ce que tu viens nous dire ? Ouh, c'est la révolution, j'ai arrêté de coucher avec des garçons. Non.
incroyable. Enfin, vraiment, ça me fait vraiment rire. Et le body positive, moi, ça me fait un peu pareil. C'est genre les gens qui te disent, ouais, il faut aimer son corps quand on a des complexes. Non, tu crois ? Mais en fait, moi, j'ai jamais pu trouver un pantalon à ma taille dans un monop de ma vie. Et c'est à moi que tu viens m'apprendre qu'il faut faire des efforts. Enfin, c'est vraiment genre les donneuses de leçons qui vivent pas le quart de ce que tu vis ou qui ont pas le quart de l'expérience, du savoir expérientiel que t'as dû développer pour te sortir de situations où t'étais, où il y avait rien et où t'as dû former de la communauté avec des gens comme toi. Enfin, vraiment. Et qui débarquent en te donnant des leçons. Et t'es là, non, je ne pense pas, non.
Puis c'est un peu la même chose avec les vêtements. On en a pas parlé, mais c'est souvent un des sujets. Moi, j'ai l'impression que mes potes minces, c'est le premier truc un peu qui déclenche leur empathie, c'est de dire, oh, mais tu trouves pas de jean à ta taille. Et c'est vraiment le truc qu'elle trouve incroyable. Mais oui, il y a là aussi cette idée que la fast fashion, en ce moment, c'est un peu le grand débat. Il faut surtout pas acheter de fast fashion, mais sauf que quand on est gros ou grosse, on n'a pas vraiment le choix, quoi.
Et là, on s'est pris la tête avec Alternatiba, notamment parce qu'eux, ils poussent vachement sur les nouvelles lois qui vont passer pour taxer les gens qui produisent de la fast fashion. Et je leur ai dit, attention au discours que vous employez, parce que souvent, vous êtes grossophobe, en fait, dans les arguments que vous développez, et c'est chiant. Il a dit oui, mais c'est quand même, c'est très important. Je dis oui, c'est très important, mais quand même, attention à la manière dont vous dites les choses. Et il me dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il y a des amendements qui vont passer où il va y avoir des incitations financières pour les marques qui vont produire des produits éthiques en au-delà de la taille 42. Et ils étaient très fiers de m'annoncer. J'ai dit, mais meuf, qu'est-ce que j'ai dit? L'incitation financière, ils en ont même pas besoin, parce qu'en fait le marché il est immense. Je vais pas le répéter, mais on est en pandémie, il y a de plus en plus de gros, etc. On est partout, craignez-nous. Mais en fait ils veulent pas faire des vêtements pour les gros. Je veux dire, ils ne veulent pas parce que des thunes à se faire, c'est en pleinement juste capitalisme 101, des thunes à se faire, il y en a un paquet parce qu'il y a beaucoup de gros et de grosses. Donc vraiment, ils ne veulent pas. Tous les magasins aujourd'hui, à Paris, moi j'habite à Paris, il y a une seule boutique où je peux m'acheter un t-shirt, un jean, quoi. Une seule boutique. C'est des Allemands. Ça se fait chier. H&M, par exemple, a retiré tous les rayons grande taille de ces magasins physiques. On ne peut plus acheter en physique, mais par contre, vous êtes bienvenus pour acheter en ligne, mais on ne veut pas de gros et de grosses dans nos rayons. Et il y a plein de magasins qui font ça, et parce qu'ils ne veulent pas avoir de grosses et de grosses dans leur région. Ça ne correspond pas à leur image. Mango fait ça, a retiré Violetta, la gamme Violetta qui allait jusqu'au 52 ou 54 de ses rayons parce qu'ils ne veulent pas de gros et de grosses en boutique. Ça ne les intéresse pas, la clientèle grosse, ça les débecte. Enfin, vraiment, c'est ça le message. Moi, je ne comprends pas qu'un géant genre Inditex qui fait Zara et tout ça. Et oui, évidemment, c'est de la merde, c'est de la fast fashion. Ok. On pose ça. Maintenant, je crois, ils ont des milliards de thunes à se faire en faisant des vêtements grande taille. Ils choisissent de ne pas en faire parce qu'ils ne veulent pas avoir de clientes, de clients. Gros, c'est tout. Et c'est pas parce que la France va dire on va vous donner des sous si vous faites du 42 au 48, déjà ça va. Et bien qui, lol. Mais enfin, ça suffira pas. Ils ne veulent pas.
Oui, les incitations financières, oui, que dalle. Mais tu parlais de vêtements. En plus, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu rire aussi là-dedans, c'est que souvent les personnes grosses, on est un peu des précurseurs et des précurseuses en matière de seconde main. Et que ce soit sur Le Bon Coin, sur Vinted maintenant, c'est des hauts lieux de fréquentation. De tractation, ouais. C'est des hauts lieux de la communauté grosse, quand même.
Oui. Bah, nous, on le voit à Grapoétique, on essaie d'organiser deux fois par an des vide-dressing solidaires, où on dit aux personnes, venez vendre les fringues dont vous ne servez plus. On leur dit, on ne vend rien au-dessus de 10 euros. Et tout ce qu'on ne vend pas, on le donne à une asso à la fin. Donc, on essaie de faire ça de manière un peu clean. Et on voit, il y a un monde qui vient. Alors, on peut faire des groupes de parole, il n'y a personne, on fait des trucs un peu sérieux, il n'y a personne, mais tu fais un vide dressing, enfin, vraiment, c'est noir de monde, et puis c'est des moments de communauté qui sont hyper importants, c'est des moments d'empouvoirment hyper importants, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais kiffé acheter un vêtement, qui ne se sont jamais trouvés beaux, jamais trouvés jolis, et là, ils ont 10 personnes qui disent, mais oui, mais c'est trop bien, mais mets-le, mais vas-y, et franchement, vraiment, c'est des moments hyper importants, quoi. Mais oui, il y a un problème de fringue. Et puis le problème, le fringue, c'est un costume social. Donc ça impacte aussi la manière dont on va se donner à voir dans l'espace public, quand on va aller à un entretien. Enfin, c'est pas juste les fringues. Moi, il y a un truc qui me frappe de bon sens. C'est juste. En fait, quand tu dépasses une certaine taille, t'as pas de style. Tu peux pas avoir un style. Ton style, c'est rayon grande taille. C'est tout. S'il n'y a pas plusieurs rayons grande taille. Si t'aimes les fleurs, ou si t'aimes le fluo, ou si t'es. Quechua, ou je sais pas quoi. il y a rayon grande taille et tu dois tu fais avec ce que tu as dans ce rayon grande taille, alors que ça se trouve t'aimes rien mais il faut que tu trouves un truc. Donc ton style c'est rayon grande taille. Moi mon style c'est rayon grande taille qui habille homme. Voilà, par exemple, c'est, je l'ai pas choisi, bon je fais avec, mais c'est
moi c'est rayon à côté du rayon maternité.
Voilà, c'est enfin voilà ce jeu. Et parfois je me dis putain, si j'avais fait un, je sais pas, un 40 toute ma vie, je sais pas, ça se trouve je serais quelqu'un de complètement différent, enfin je sais pas qui je serais en fait, ou comment je m'habillerais, ou enfin qui je serais à peu près, mais comment je m'habillerais plutôt, je sais pas quoi.
Je regarde le temps, je sais pas trop combien on... parce que je parle
46. Les libraires sont partis.
on peut doucement passer aux questions. Mais
vous avez une autre question?
J'en ai plein, mais ça fait 40 minutes qu'on parle. En tout cas, ce bouquin est super. Très bien documenté.
Elle dit pas ça parce que c'est ma femme.
Non, mais vraiment, je crois vraiment qu'en tout cas, il vient à un endroit où il n'y a pas de livre, où il n'y a pas d'écrit, où il n'y a pas de documentation. Et 10 chapitres. Ah oui, bah, Libertalia, tiens. C'est une maison d'édition de gauche.
Si. Anarchiste, je sais pas comment on dit, de gauche.
Estampillé d'extrême gauche. Et quand je te posais la question tout à l'heure de pourquoi la gauche ne saisit pas de ces questions, est-ce qu'on peut y voir un espèce de signe
Bah en tout cas, je pense que j'ai touché plein de gens que j'aurais peut-être pas touché si c'était pas sorti chez Libertalia. Et puis moi, il y a un truc qui m'a donné vachement d'espoir récemment, c'était il y a 2 semaines. J'ai eu la chance d'être invitée pour parler à l'intersyndicale des femmes. Donc j'ai parlé devant 500 représentantes syndicales solidaires Sud et CGT. Et c'était vraiment 500 personnes hyper déter, hyper motivées et qui étaient vraiment, on a parlé 3 heures de grossophobie ensemble et c'était vraiment bien, et ça m'a vraiment donné de l'espoir, et je me suis dit que bah, je pense que ça va essaimer et ça va donner lieu à des changements même minimes, mais quand même je pense que ça va donner lieu à des changements dans leur pratique et dans leur lutte quoi, et ça c'était vraiment ouais, plein d'espoir pour moi.
S'ils pouvaient bien te recevoir.
Oui, parce que j'ai parlé et j'ai cassé la chaise. C'était quand même pénible devant 500 personnes. Ça, c'était... Bah oui, quand vous recevez des gros, pensez aux chaises, s'il vous plaît.
Oui, bah oui. Le nombre de fois où on est invité dans des trucs de gauche ou même avec gras politique et où on est... on peut pas s'asseoir, quoi. Enfin,
c'est... Après, c'est la gauche a aussi un problème avec le validisme. Hein. La gauche a un problème avec viens, on fait une réunion, mais c'est pas accessible. Et donc, ah, mais on pourra porter ton fauteuil. Mais en fait, ils ont pas envie que tu portes ton fauteuil. Ils ont envie que ça soit accessible pour tout le monde. La gauche a un problème avec les chaises où on a besoin de chaises sans accoudoir. La gauche... Bon, après, on dit... Parfois, on fait avec nos moyens aussi, même à gras politique. Parfois, on a dû avoir recours à des salles où c'était chiant, etc., parce qu'on avait zéro thune et qu'on faisait avec l'existant. Mais je pense qu'il est quand même temps qu'on saisisse même les questions de LSF. Quand on fait des trucs un peu importants et grands politiques, on a à cœur de faire venir des interprètes de LSF pour que ça soit accessible en langue des signes, ce genre de choses. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se bouge là-dessus, quoi. Ça y est, 2024, quoi. Il faut qu'on... Alors oui, l'intersectionnalité, c'est pas une grille de lecture qui plaît à tout le monde, je l'entends, même à gauche. Voilà, mais on peut juste se dire, on va parler au maximum de gens possible et aller chercher peut-être les gens qui ont en ont le plus besoin, ou alors qu'on n'a jamais été chercher avant, même dans un but de rassemblement, quoi.
Eh ben, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Du coup, on fait passer les micros s'il y a des questions. Ouais.
Merci beaucoup pour la rencontre. Peut-être je peux juste lancer 2 pistes. Je ne sais pas si tu veux en saisir une des 2. Gras politique, on n'en a pas forcément parlé de l'assaut, de ce que vous faites, hormis des journées fripes. Et peut-être la question de l'archive. Parce que tu parlais de ça aussi, du manque de connaître les histoires, ne serait-ce qu'en France. Du coup, peut-être la question de l'archive. Est-ce qu'il y a des projets autour des archives grosses? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont nées ou des désirs de... voilà.
C'est une super question. Sur Gras Poétique, donc ouais, on est une asso. Au début, on était un collectif. Co-fondé avec une pote dans un jardin un jour en disant il y en a marre que les féministes nous écoutent pas et que même nous on était à la fois féministes et à la fois dans les milieux transpédéguines quoi on va dire, et on se disait on n'avait pas d'écoute là-dessus, on se sentait pas pris en compte, et donc on a dit bah fais chier, faisons un truc en fait, si personne le fait faisons-le nous-mêmes. Au début on était un collectif et puis on s'est monté en asso parce que c'est pratique pour avoir des salles. C'est un truc vraiment bête, mais voilà. Et ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit tout le temps qu'on a 3 axes de travail. Le premier, c'est qu'on essaye de faire de l'empouvoirment, vraiment de l'empouvoirment pour les personnes grosses, c'est-à-dire à la fois de parler de grossophobie, de leur expliquer ce que c'est la grossophobie, parce qu'il y a plein de personnes grosses qu'on leur a tellement tapé dessus toute leur vie qu'elles se rendent même pas compte que tout ce qu'elles subissent, c'est de la grossophobie, en fait, que ça a un nom, que ça existe, que c'est un système, qu'on peut le déjouer, qu'on peut vraiment se battre contre, qu'on n'est pas seul. Enfin, vraiment, ce travail-là, il est super important. L'empouvoirment aussi, bah, c'est con, mais par les fringues. On avait aussi lancé un truc qui s'appelait le yoga, qui était des cours de yoga adaptés à tous et à toutes. Pendant la période vraiment maximum de l'épidémie de Covid, on les avait passés par Zoom, donc ça nous avait permis de toucher plus de gens à travers la France. C'était très chouette. Là, on a mis un peu en pause parce que notre prof était parti et que bah, on a à cœur de recruter quelqu'un de bien. Donc, pour l'instant, on a fait une pause. Donc vraiment, l'empouvoirment, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Et on le voit, enfin vraiment, les gens qui viennent, ils sont toujours, enfin, contents. On a toujours des bons retours et puis et des gens qui sont soutenus parce qu'on existe. C'est con, mais c'est important. Le deuxième axe, c'est qu'on fait de l'éducation. On va dans les collèges, dans les lycées, dans les syndicats, dans les médecins. On parle aux étudiants en médecine, des étudiants kinésithérapeutes. Enfin voilà, on va parler de grossophobie médicale, de ce qu'ils peuvent faire pour changer les choses, etc. Et le troisième axe qu'on fait pas trop, on va pas se mentir, mais qu'on aimerait bien faire, c'est du lobbying. Le problème, c'est que, enfin, on est un peu frileux. Pour aller parler aux institutions, etc. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le courage et la forme pour y aller. Mais le truc, c'est que soit ils nous invitent pas parce qu'ils considèrent qu'on est des punks, alors que vraiment pas, quoi. Mais
c'est parce qu'on crie fort sur les réseaux sociaux.
Parce qu'on crie fort souvent. Soit ils nous invitent, mais nous on a vraiment pas envie d'y aller. Donc mais bon, ça, on aimerait vraiment pouvoir travailler là-dessus, parce que je parlais d'Allegro Fortissimo tout à l'heure, mais à l'époque ils avaient vraiment ils startaient toutes les réunions avec la PHP, et c'est grâce à leur travail qu'ils avaient réussi à faire ouvrir par exemple un IRM à champ ouvert dans un hôpital en région parisienne. Enfin, c'est des victoires qui sont importantes, et je pense que c'est un vrai travail à faire. C'est chiant, moi j'aime pas l'institution, j'aime pas tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une lutte grosse qui se passe malheureusement à ces endroits là si on veut peser, quoi.
Oui, parce qu'avant cet IRM, on envoyait les gros dans les eaux.
Dans les cliniques vétérinaires, ouais. Les personnes au-delà d'un certain poids, pour passer des IRM et des scanners, on les redirigeait vers la clinique vétérinaire. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que les cliniques vétérinaires refusent pour des questions d'assurance. Mais nous, on a des membres agrapolitiques qui sont en attente de diagnostic sur des trucs possiblement graves depuis des années, parce qu'en fait, ils ne rentrent pas dans les scanners ou dans les IRM nulle part en France, et qu'on a zéro solution à leur trouver, et que parfois ils rentrent, mais la clinique ne veut pas parce qu'il y a une question d'assurance et qu'ils sont assurés jusqu'à tel poids et pas au-delà d'un tel poids. C'est vraiment des situations qui sont dramatiques, parce que on a une membre, on sait pas, peut-être elle a un cancer des ovaires, peut-être pas, enfin, c'est... Et évidemment, ils ne veulent pas l'opérer parce qu'ils considèrent qu'elle est trop grosse pour subir l'anesthésie, machin, etc. C'est des situations qui sont dramatiques et qui sont en plus, enfin, vraiment extrêmement humiliantes et douloureuses, quoi. Donc c'est à la fois un problème d'organisation de la santé publique, mais d'un point de vue individuel, c'est vraiment hyper douloureux, quoi.
Les archives ?
Pas du tout. pas du tout, à part notre collection de couples, de fanzines gros et autres choses qu'on récupère comme on peut. Mais il faut avouer que non, il n'y a pas de boulot là-dessus. Après, quand je vois le combat que c'est de faire les archives, rien que les archives LGBT à Paris, la guerre que c'est et tout ça, je me dis waouh. Mais oui, il faudrait, t'as raison, c'est une vraie question. C'est une vraie question.
Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Ma question concerne un peu le troisième acte, un peu plus institutionnel. Je voulais savoir s'il y avait des politiques publiques, peut-être en Europe ou je ne sais pas, ailleurs dans le monde, qui étaient plus avancées, inspirantes, qui pourraient être un point d'appui pour justement du débat avec des politiques, des institutions, pour faire avancer au moins dans le champ des services publics comme la santé, quoi.
Non, des politiques publiques, moi, j'en connais pas. Il y a deux pays en Europe qui m'échappent là, où la grossophobie apparaît dans la loi. Donc, il y a un délit de grossophobie. Donc, ça, sur la santé, ça nous aide pas. Mais en tout cas, sur le reste, en tout cas, ça aide à caractériser quand il y a des insultes, quand il y a des choses grossophobes qui sont faites. Sur la santé, moi, ce qui me plaît le plus, c'est ce que je vois d'un meilleur œil à peu près, c'est le mouvement qui s'appelle Health at Every Size, qui est aux États-Unis et qui recoupe beaucoup, beaucoup de médecins, en fait, qui suivent des formations, etc., pour accueillir les patients de manière holistique, c'est-à-dire avec leur poids.
poids et de pas mettre le poids au centre des traitements, le prendre en compte évidemment quand c'est nécessaire, ne pas le nier du tout, mais en tout cas ne pas faire du poids la première réponse. Et ça, c'est un peu ce que je vois de, mais c'est pas un truc d'État quoi, c'est pas une politique de santé publique, c'est un truc que les gens font. C'est un peu comme l'équivalent du GROS en France, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui sont des diététiciens, des nutritionnistes, des endocrinos, des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes, qui refusent la grossophobie, qui se forment chaque année, qui sont anti-régime, voilà, donc qui sont en général assez safe sur les questions. Et puis nous, à Gras Politique, on a deux listes, la liste noire. Donc si vous avez eu des expériences pourries avec des médecins grossophobes, vous nous écrivez et nous on les name and shame, c'est-à-dire c'est l'outil bien connu, c'est-à-dire qu'on met leur nom et on met votre témoignage à côté, on dit n'allez pas voir ce gars-là. Et si vous avez une super expérience avec un médecin qui n'est pas grossophobe, et bah, vous nous dites aussi, on le référence, et donc on a des listes de médecins, des listes communautaires, quand on est revenu vraiment au fonctionnement de santé communautaire, comme l'ont fait les PD, les trans avant nous, parce que c'est ça qui marche, quoi.
C'est marrant que tu aies dit ce gars-là, parce que c'est vraiment que des gars, quoi. La liste noire...
Quoique, malheureusement, en gynéco, oui, il y a aussi des docteurs extrêmement immondes. Donc,
C'est que des gars qui nous envoient des mails pour dire « Enlevez-moi de la liste !»
Oui, c'est dégueulasse, je suis sur votre liste, c'est vraiment pas juste, j'ai rien fait. Je vais saisir l'ordre. Et après, l'ordre nous envoie une lettre en disant « Excusez-nous. » Et nous, on est là. « Ok. » Et ben bah, à l'année prochaine pour la prochaine lettre, et voilà. Parce que normalement on n'a pas le droit de faire des listes de médecins dans une espèce de truc très français un peu débile, alors que enfin Doctolib c'est quoi à part une grande liste de médecins, enfin les avis Google et tout ça, mais bon.
Bah c'est une asso afro-féministe dont j'oublie le nom,
pilule noire, de soignante
globule noire,
soignant soignante ouais noire,
qui avait eu de gros soucis légaux à cause de leur liste, quoi.
Ouais.
Nous, je sais pas si ça nous tombera dessus un jour.
Bah pour l'instant, ils nous écrivent vraiment des lettres lors des médecins en disant « Oui, alors, bon, c'est pas très légal, bon... » Mais bon, c'est des lettres simples, ils nous... voilà, donc pour l'instant, nous, là, on n'a pas reçu, c'est con. Ça, genre... c'est ça. On fera une cagnotte litchi. Non, mais enfin, moi, je crois pas du tout qu'on va avoir des problèmes. Quand ils sont trop énervés, on les retire. Mais c'est rare, en fait, on fait pas trop. C'est vraiment, enfin, ce truc de name and shame. Mais moi, j'en viens à rêver d'un truc où on... Parce qu'en fait, il y a leurs photos sur Doctolib, à ces gens-là. Et je rêve d'une action, en fait, où on imprimerait en A3 leurs photos. À côté, le témoignage de la personne qui s'est fait violenter par ce médecin. Et on irait les coller partout... pour que ça pète à la gueule des gens. Ou alors, à un moment, je voulais faire des fausses plaques de médecins, là, comme ils mettent sur les immeubles, où on mettrait le témoignage des gens, tu vois, et on dirait peut-être pas.
Oui, parce qu'on on reçoit des témoignages avec l'asso qui sont dramatiques, quoi. Vraiment des trucs... Des trucs
qui vont jusqu'à la mort, en fait, jusqu'à vraiment des cas où la négligence grossophobe a causé la mort de gens, quoi. Ou alors des gens qui ont été opérés de chirurgie bariatrique alors qu'ils n'étaient pas du tout dans les critères pour ces opérations-là, qu'ils n'étaient pas assez gros, qu'ils étaient en détresse psychiatrique, on a opéré quand même, des gens qui sont suicidés le lendemain des opérations, enfin des trucs terribles, quoi. Vraiment. Ouais, super ambiance. Voilà, désolé. Donc du coup, non, pour l'instant, au niveau de la santé publique, j'ai pas d'exemple magique à donner, mais il y a des initiatives de soignants-soignantes qui sont louables. Il y a l'association Pour une meuf aussi qui bosse avec nous, qu'on a formée à plusieurs reprises.
Il y a la question de... comment s'appelle l'espèce d'assurance alimentation. Enfin,
il y a un truc qui est en discussion, qui est intéressant, qui impacte... Oui, t'as raison d'en parler, la santé. Il parle vachement de faire naître une sécurité sociale alimentaire. Pour assurer aux personnes les plus précaires l'accès à des produits, à des ingrédients, puisque ça qu'on dit, des légumes, des fruits, etc. Bon, après, faut faire gaffe, parce que nous, à Gras Politique, notamment, on a une très bonne copine qui bosse au Secours Populaire, je dis tout ce soir, voilà, c'est pas... et qui s'occupe d'aller chercher les vivres, enfin, qui s'occupe de récupérer des dons et des choses comme ça pour redistribuer, faire des paniers alimentaires, et pour récupérer ces invendus sur lesquels... Attends, je remets tout dans l'ordre. Il y a une loi qui est passée qui dit que les supermarchés, etc., peuvent faire des crédits d'impôt sur les invendus qui filent à des assos. Okay, ces invendus qui sont souvent soit périmés, soit pas en bon état, mais bon, ils touchent quand même le crédit d'impôt. Et pour que ma copine du Secours Populaire puisse faire des paniers alimentaires avec ces invendus, elle doit s'engager à faire de l'éducation diététique auprès des populations à qui elle donne ces paniers alimentaires. Donc même à ces gens qui ont quand même pour toucher les paniers du Secours Populaire, c'est vraiment t'es dans la dèche, et pour toucher des trucs que t'as pas choisi et qu'on tient dans ton panier parce que c'est ça qu'ils ont reçu cette semaine-là, tu dois quand même dire, faire patte blanche avec ta dignité en disant ok, je vais pas être grosse, d'accord, bon, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Donc moi je me méfie quand même de ce truc de sécurité alimentaire pour savoir comment ça va être dealé, en mode vous aurez droit qu'à 3 brocolis et à 2 œufs parce que sinon vous allez faire n'importe quoi, je sais pas, mais en tout cas je trouve que l'idée est bonne quoi.
Toujours un peu dans le même sens des questions précédentes. Et puis d'abord, merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu dis. Je trouve très agréable de t'entendre. Et puis voilà, moi ça évoque plein de choses aussi un peu perso et un peu ancienne. Mais voilà, vraiment merci beaucoup.
On se connaît, non ?
Non, on ne se connaît pas. Mmh, je ne crois pas. Je ne crois pas.
J'étais sûre depuis tout à l'heure.
Oui, non, et juste donc voilà, dans le même sens des questions qui ont été posées, je me demandais qu'est-ce qui se passe au niveau du défenseur des droits à l'heure actuelle sur ces questions.
Bah, tu l'as rencontré il y a pas longtemps. Enfin, t'as rencontré quelqu'un.
Voilà. Ça, c'était ma première question, donc sur la question de la grossophobie, et j'en avais une deuxième. Tu as évoqué tout à l'heure le body neutral, et j'aimerais bien que tu reviennes dessus parce que je pense que tu es passé un peu vite.
Tu parles très vite aussi.
Et voilà. Et voilà, j'aurais bien aimé que tu reprennes un peu cette partie pour que je comprenne mieux.
Le défenseur des droits, c'est une cata. C'est une cata. Moi, j'avais fait un test. J'avais été sur le site du défenseur des droits et j'avais tapé grossophobie dans la barre de recherche. Rien. Après, j'ai tapé gros. Toujours rien. Après, j'ai tapé. Donc, en fait, ça n'apparaît pas. Le terme de grossophobie n'apparaît pas. Alors, il parle de discrimination à l'apparence. En fait, il parle de ce qui est dans la loi, c'est-à-dire une discrimination à l'apparence très large, mais la grossophobie, ça n'existe pas, donc c'est un problème. Et il se trouve que oui, dans... Je ne sais plus où, d'ailleurs, je l'ai rencontré, pas le défenseur des droits, mais la dame qui s'occupe de la com du défenseur des droits. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même ennuyeux, parce que pour qu'une discrimination existe, notamment en France, où on est un pays très procédurier là-dessus, pour qu'une discrimination soit reconnue, il faut qu'il y ait des plaintes, il faut qu'on puisse vraiment dire, voilà, on a déposé, on a des dossiers, on a des trucs, des papiers à montrer. C'est quand même chiant qu'on puisse pas s'appuyer sur l'expertise du défenseur des droits sur la question de la grossophobie. Et vraiment, la dame est tombée de sa chaise en disant, la gros quoi? Ah oui, ah bon. Et bah, vous allez venir nous former, ça. Ah oui, bon, d'accord, ok. Ok, donc on est pas grand chose sur les défenseurs des droits. Après, je pense que s'il y a quelque chose, ils vont en fait réagir comme les autres trucs de justice, c'est-à-dire ils vont dire oui, c'est du harcèlement quand ce sera du harcèlement, mais la notion de grossophobie ne sera pas retenue en tant que telle. Voilà. Ben là, on va les rencontrer, on va les former. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, là, ils sont au courant qu'il y a un problème. On a rempli avec Grapolitique, on peut remplir une saisine sur leur site pour dire il manque quelque chose. On l'a fait. Pour l'instant, on n'a pas de retour, mais j'espère bien que ça va bouger. Donc oui, c'est important. En fait, je pense qu'ils sont pas contre l'idée. C'est juste que vraiment, c'est un impensé total, quoi. Mais oui, c'était vraiment édifiant de la rencontrer, qu'elles soient un peu genre. Quoi ? C'était étonnant. Et oui, body neutral, c'est... Donc, il y a eu cette période de body positive où on a dit, ouais, on est tous beaux, on est tous belles, c'est super, ouh, on s'aime, assume-toi. Genre, quel pire truc on peut dire à quelqu'un qui est malheureux avec lui-même de se dire, bah, assume-toi. Puis c'est vraiment genre des réponses individuelles à un problème global, quoi. C'est vraiment genre comme, arrête d'acheter du shampoing liquide, le pétrole, non, bon. Bref, je sais pas, pardon, excusez-moi pour ceux qui prennent du shampoing sec, mais bref, je sens qu'il y a des amateurs de shampoing sec dans la salle. oui, pardon. Donc il y a eu cette vague-là qui nous a bien déçus parce qu'on s'est senti rejetés, mis à la marge de quelque chose qui devait nous mettre au centre et donc ça n'allait pas. Et après, il y a eu cette idée qui est arrivée qui s'appelle le body neutral, donc toujours des termes anglais parce qu'évidemment ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Donc être neutre avec son corps, c'est l'idée qu'on n'est pas obligé de se trouver beau, qu'on peut ne rien penser de son corps, qu'on peut juste le voir comme l'objet, la monture, je sais pas comment dire, mais le véhicule, qui nous permet d'être, de vivre, et d'habiter ce monde, quoi, et qu'on n'est pas obligé en fait ni de le juger, ni de le regarder, enfin même pas de le, enfin voilà, qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir un avis et qu'on n'est pas obligé de l'aimer et qu'il n'y a pas d'injonction à s'assumer et qu'on peut être une excellente militante contre la grossophobie en détestant farouchement son corps, parce qu'en fait c'est beaucoup demander à quelqu'un de défaire des années de détestation de soi. On peut se battre pour ses droits, des droits, et quand même continuer à se détester, je veux dire, et parce que ça m'était aussi
aussi les gens cette histoire de body positivity dans un espèce de truc de ah moi je m'aime pas donc je peux pas me dire militante, moi je m'aime pas donc je peux pas faire ci. En fait si tu peux, c'est ok. Enfin on a tous des chemins tellement difficiles, tellement longs, parfois pas, parfois à faire, que en fait body neutral c'est juste dire t'es pas obligé de t'assumer quoi. Tu peux dire en fait je déteste mon bourrelet mais je déteste aussi la grossophobie médicale. Voilà. Tu peux dire c'est super chiant d'être grosse dans une société grossophobe et en même temps bah je veux pas me faire traiter de grosse truie quand je traverse la rue. Enfin tu vois c'est faire cohabiter tout ça en fait je crois.
Oui, tout à l'heure tu as parlé de plus on est gros, plus on est pauvre et moi je voulais savoir un peu plus c'est plus lié aux discriminations dans le travail ou...
C'est une large question. En tout cas, les choses qui sont sûres, c'est qu'en France, quand on superpose la carte de l'obésité et la carte de la pauvreté et la carte du chômage, ce sont des cartes qui se matchent parfaitement. C'est-à-dire qu'on est plus pauvre et plus gros, par exemple, dans le Nord qu'on l'est en Île-de-France. Le Nord, c'est vraiment la région sinistrée. C'est d'ailleurs là où ils lancent tous leurs plans lutte contre l'obésité, etc. C'est dans le Nord, parce que c'est la région la plus grosse et la plus pauvre. Pourquoi est-ce que les pauvres sont plus gros ? Bah, c'est une question d'argent, parce que on l'a tous ressenti, quel que soit notre niveau de salaire ou pas, l'inflation fait que les courses alimentaires, ça devient vraiment très cher, et que voilà, c'est pas possible pour tout le monde. L'accès à la médecine, bien sûr, l'accès aussi à la nourriture de qualité, parce que les déserts alimentaires dont je parlais plus tôt en Angleterre et aux États-Unis, peu à peu, ils arrivent aussi dans certaines régions de France où quand on n'a pas de voiture, bah, c'est très compliqué d'aller faire des courses de qualité. Voilà. Il y a aussi le fait qu'il y a des études qui prouvent que plus on est pauvre, plus on va privilégier des aliments qui sont à haute calorie, parce qu'en fait, on peut en acheter moins pour avoir plus de calories. Et aussi, il y a un truc de satisfaction aussi avec des aliments qui sont plus gras, plus calorifiques, etc. Il y a aussi, et encore une fois, pourquoi les gens sont gros, c'est une question hyper intéressante, mais à laquelle je n'ai pas de question. Parce qu'en fait, on est gros parce qu'on est gros, parce que le corps gros a toujours existé. Tous les historiens du corps gros disent que le corps gros a toujours existé, qu'il y a toujours eu des gros, que d'ailleurs on s'est toujours moqué de nous. Donc c'est vraiment pas une discrimination toute neuve. On est gros parce qu'on est pauvre, on est gros parce qu'on est traumatisé, on est gros parce qu'on a eu un accident de vie, on est gros parce qu'on a eu... Il y a beaucoup de violences sexuelles dans l'enfance qu'on retrouve chez les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Beaucoup de gros ont des troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'il faut en faire un lien ? Moi j'en fais un, je vous laisse le faire, ou pas. On est gros parce qu'on est tous gros dans la famille et qu'on sait aujourd'hui que le corps, c'est à peu près 70% de génétique de comment on va être fait. Donc si on a... Voilà. Je ne sais pas pourquoi on est gros. Je sais pourquoi parfois les gens grossissent. On peut avoir des explications sur des éléments de vie, mais pourquoi est-ce que les gens grossissent ? Et puis il y a le rôle des industriels, là, pardon, ça je ne le dis pas quand même, mais il y a quand même un très gros rôle de l'industrie, de la manière dont on se nourrit, où on ne sait pas ce qu'on bouffe, où à force de vouloir réduire les coûts. C'est vraiment l'histoire du glucose, pour ça c'est super intéressant, l'histoire du sirop de maïs aux États-Unis, la manière dont ils ont mis du sirop de maïs, qui est un aliment je m'embarque dans un truc là, excusez-moi. chercher l'histoire du sirop de maïs, mais vraiment la manière dont aux États-Unis ils ont fait du sirop de maïs, ils savaient pas quoi faire du maïs parce qu'ils en avaient trop. Du coup, ils se sont dit, viens, on va faire du sirop de maïs, c'est comme du sucre et c'est très très sucré, mais on en a trop. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va en foutre dans toute la bouffe. Et donc, maintenant, dans les nuggets, il y a du sirop de maïs, dans les sushis, il y a du sirop de maïs, il y a du sirop de maïs partout, partout, partout. Et c'est un aliment dont on peut se passer, mais qui est rajouté et qui fait grossir tout le monde, mais qui est rajouté parce que l'industrie ne sait pas quoi en faire, mais doit quand même faire du capital sur cet aliment qui serait jeté sinon. Enfin, vraiment, il y a des logiques d'industrie agroalimentaire qui impacte nos santé vraiment très clairement. Maintenant, en ce moment, on parle beaucoup des polluants éternels. Il y a des recherches nouvelles qui montrent que les polluants éternels jouent sur la thyroïde, jouent sur le poids, etc. Enfin, pourquoi on est gros, j'ai pas de réponse à ça. Moi, je peux dire pourquoi je suis grosse à peu près, je pense, mais même moi, est-ce que je sais vraiment mais pourquoi on est gros, c'est plus difficile, ouais. Mais c'est sûr que c'est un lien avec l'accès à la nourriture, l'accès à la santé, là où on habite. Si on parle de la pollution, les territoires pollués, c'est aussi des territoires pauvres. Ça, c'est sûr.
Mais s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut poser les micros, se lever, bavarder autrement.
Voilà, enfin, merci. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci beaucoup, Daria Marx. C'était le livre 10 questions sur la grossophobie, c'est paru à Libertalia. Encore merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.